Radio Django, le grand direct, 18-19h.
Ce soir, dans La Rose des Vents toujours, c'est une rencontre inédite avec Michael Reber, un Suisse d'origine bernoise, conseiller en entreprise et indépendant. Un voyage en Grèce avec son épouse en août 2015 le bouleverse. Quelques heures avant son départ pour la Suisse, il voit sortir d'une bouche de métro des enfants portant des sacs surdimensionnés. Ces enfants regagnant un groupe de migrants entassés sur une place livrée à eux-mêmes, sans eau et sans vivre. Ils se rendent ensuite à Lesbos et s'investit en fin septembre 2015, jusqu'à fin mars 2016, de différentes actions sur le terrain, notamment dans le domaine du sauvetage et de la logistique, pour rejoindre le camp improvisé d'Idemeni à la frontière de la Macédoine, puis celui de Sindos. Au fil des mois, pour pouvoir continuer d'agir, Michael Reber crée en 2015 SwissCross.help, une fondation basée sur une organisation familiale et entièrement financée par des dons privés. C'est dans cette perspective que Karine Perrou, fondatrice d'ACT, Action Concrète de Terrain, que c'est donc même Karine Perrou, a invité Michael Reber à venir donner une conférence sur ses activités le mercredi 23 août dernier au Casino de Montbenon à Lausanne. La Grèce traverse depuis plusieurs mois, on le sait, une crise migratoire et humanitaire qui la dépasse. Malheureusement peu soutenue par l'Union européenne, elle s'appuie sur la population locale et le soutien de particuliers à l'origine d'initiatives personnelles, comme par exemple SwissCross.help. Le 12 août passé, Daniel rencontre Michael Reber et lui demande s'il trouve normal que ce soit des particuliers qui se mobilisent pour aider ces réfugiés.
Alors, l'année dernière, je pensais que c'est pas normal. Moi, je pensais que ce sont les institutions qui vont s'occuper, qui vont régler. Comme moi, comme Suisse, j'ai pensé que ça va travailler. Mais maintenant, je vois que l'Europe apprend ce que tout le monde déjà sait. Si ce sont pas les citoyens qui s'occupent, qui donnent des solidarités, ça n'a pas fonctionné.
Est-ce que vous avez le sentiment que les États, de manière générale, en Europe et en Suisse, sont démissionnaires?
Alors, ce que moi, je vois qu'on a maintenant des lois qui sont en effort, mais qui sont plus suivies. Ça veut dire, en principe, vous avez le droit de poser votre demande d'asile. En fait, vous ne pouvez pas le faire. Et l'autre truc, ça c'est toutes les questions concernant les gens qui sont en fuite à l'Europe sont discutées d'un point de vue sécurité et pas d'un point de vue de ces gens. Ce sont des familles avec des enfants, avec des grands-pères qui sont fuites d'une guerre. Et les décisions ne sont pas prises du point de vue de ces humains. Et c'est faux. Alors, la première priorité doit être de restaurer c'est les droits d'humain dans ces gens. Ça doit être la première priorité. Ça n'est pas politique, ça n'est pas une question de gauche, de droit, parce que ce sont des droits humains. Ça, c'est la seule position. Et dès qu'on a réglé ce problème-là, on peut discuter tous les autres problèmes et tous les autres concepts qu'on a besoin pour intégrer ces gens. Là, je suis d'accord.
Et à votre niveau, en tant que particulier, comment est-ce que vous arrivez à faire respecter ces droits humains et à quels besoins vous répondez au quotidien?
On s'occupe maintenant pour plus de 2 mois de 600 gens à Thessaloniki. Et pour nous, ça c'est premièrement de leur donner le respect. Ça veut dire de vraiment prendre le temps de visiter les gens dans leur tente, de boire le thé, d'attendre les histoires, d'identifier les besoins individuels des gens. Et pas seulement avoir une liste à dire « ceci, ces gens, ils ont besoin de nourriture, ils ont besoin de l'eau », ça c'est très important, mais c'est pas tous. Ce sont des gens et pas des animaux.
Et comment est-ce que vous arrivez à répondre aux besoins individuels que vous pouvez identifier?
On a différents concepts où on peut faire ça. Une chose, c'est si on prend un nouveau camp, ça on a fait il y a 2 semaines. En fait, maintenant, ça c'est 1200 personnes qu'on s'occupe. La première chose qu'on fait, ça c'est prendre 2-3 jours par des dîmes, par 2 personnes, et vraiment visiter tous les gens dans leur propre tente. D'attendre toutes les histoires, de faire des listes, qu'est-ce que vous avez fait comme profession à la maison, qu'est-ce que vont être votre hobby et tout ça pour savoir quelles ressources les gens ils ont. Et après, on fait... Chez nous, on a dit qu'on ne veut pas avoir des queues. Ça, c'est pas de dignité de faire la queue toute la journée. Et on dit que tous les gens, ils ont des besoins individuels. Ça veut dire maintenant chez nous, pour la distribution de la nourriture, on a un market, un shop. Et les gens, ils reçoivent des points. Si vous êtes une famille grande, vous avez beaucoup de points. Si vous êtes famille un petit, vous avez moins de points. Et avec ces points, vous allez au market et vous choisissez vous-même. Est-ce que je veux une tomate ou je veux une aubergine? Est-ce que je veux maintenant une petite poudre de lavage ou je prends peut-être une mosquito spray? Et comme ça, vous avez le choix individuel.
Ce qui veut dire que les gens ont la possibilité de cuisiner dans leur tente aussi?
Ils ont la chance de faire une pipe de nourriture, ça c'est pas beaucoup qu'on peut leur donner, mais de l'armée, ils reçoivent seulement de riz, des patates, des choses très basiques. Il n'y a pas de légumes, il n'y a pas de fruits, c'est nous qui leur donnons pour les garder en bonne santé en principe. On est à Sindos dès le 21 mai, c'est là où cette camp a été ouvert. Et à Fracapor, c'est le deuxième camp qu'on travaille maintenant, on est maintenant pour 2 semaines. Et c'était assez intéressant avec notre concept de communauté. On a tourné tout ce camp dedans 14 jours. On a ouvert le market, on a fait une école, on a fait un espace pour les femmes, pour les enfants. On a déménagé beaucoup de déchets qui étaient là, on a dépensé beaucoup d'argent pour ça, mais ça c'est aussi une dignité, une question de dignité que vous ne pouvez pas vivre dans une pile de déchets.
Ouais. Vous venez d'ouvrir une école, mais comment ça s'organise quand on pense que ce sont des enfants qui seront peut-être amenés à repartir? Est-ce que vous avez fait des classes? Racontez-nous.
Ouais. Alors en fait ce sont des centres culturels parce que normalement on n'est pas... le droit de faire une école. Alors c'était aussi, on improvise toujours. Ça veut dire, on a fait une conférence des maîtres avec les résidents. Ce sont tous les résidents dans le camp qui voulaient travailler dans l'école qui sont venus. Et après, on a organisé jusqu'à des immobiliers. On a registré les étudiants, les écoliers et on a commencé. Et maintenant, on espère que ce sont des grandes organisations qui vont venir et qui vont faire une vraie école. Et chez nous, on a dit mandatoire, c'est la grec qu'ils doivent apprendre. Et après, ils peuvent choisir des autres langues. On a de la mathématique, on a des autres sujets. On fait aussi des classes pour des adultes.
Et quelle autre activité est-ce que vous proposez aux adultes, aux hommes comme aux femmes ? Au quotidien, parce que c'est long ces journées.
Oui, ils sont très longs. Alors pour les femmes, on a l'espace des femmes où ils peuvent... En principe, je ne sais pas exactement, moi, parce que moi, je suis pas, j'ai pas le droit d'entrer ces espaces. Alors je peux vous dire pour les hommes, on essaie de travailler avec eux parce qu'ils doivent faire tous les travaux qui sont dans le camp. Et autrefois, on a fait une gym où ils peuvent s'exercer. Et on a un coffee shop et on a des différentes places où ils peuvent se séjourner. Ouais. D'accord.
Et comment ça se passe au niveau des soins lorsqu'il y a des personnes qui sont malades? Est-ce que vous avez un médecin qui travaille avec vous? Est-ce qu'il y a des médecins dans les réfugiés?
Une organisation de médecins qui est là présent pour 2 heures par jour. Et en principe, ça joue. Vous avez là un problème où les gens ne sont pas capables de soigner soi-même, de faire des médications correctes parce que peut-être ils sont traumatisés ou ils n'ont pas les ressources. Et là, il faut accompagner ces cas.
Et comment ça se passe avec les populations locales qui vous aident au sein du camp?
Alors maintenant, de côté de schweizerlutz.ch, on est environ 20 à 25 champs. On a quelques volontiers de Sindos, de la municipale locale. C'est très bon. Ce sont des gens jeunes qui sont aussi des acteurs de droits humains. On travaille tous ensemble, c'est juste. Et tous pour ces... Dans les deux camps, ce sont 1200 gens, y compris 500 enfants. Ça, c'est la folie. Combien d'enfants il y a dans ces camps?
Quelle est la provenance des personnes qui sont avec vous dans ce camp?
Dans un camp, on a tous des Arabes syriens. 90%, il y a 10% de gens qui vont de l'Irak. Et dans l'autre camp, ce sont tous des Kurdes syriens, tous de 3 cités.
Mais comment est-ce que vous faites pour communiquer ?
Oui, il y a beaucoup de gens qui parlent anglais, même des maîtres de français à l'Adam. Et autrefois, aussi pour les volontés, on a appris quelques mots en arabique, quelques mots en kurdish, et on a des traducteurs.
Grâce à votre association Swiss Cross Help, vous aidez donc environ 600 personnes au quotidien. Mais comment est financé Swiss Cross Help ?
Alors, les moyens qu'on a besoin pour gérer ces 1200 gens, ça c'est tous collectionnés privés. Alors on n'a pas de la monnaie de l'État, on n'a pas de la monnaie des institutions, on n'a pas une association nous-mêmes, ça c'est toujours encore privé, ça c'est famille. Et on voulait le garder comme ça parce que je pense que ça c'est une initiative de citoyens, ça c'est subsidiarité. Je suis toujours encore en train d'attendre pour les grandes institutions de venir et prendre la responsabilité, est-ce qu'on peut retourner à la maison. Ça ne va pas être notre vie d'aider là. Alors il y a des institutions qui pourraient s'occuper et on est subsidiarité.
Et par rapport à votre histoire et votre parcours, par rapport en fait à ces camps en Grèce, vous êtes prêt à rester combien de temps encore ?
Alors, aux gens, on a communiqué qu'on va rester si longtemps qu'eux, ils doivent être dans ces camps-là. Ça, c'est l'intention, mais ça dépend si on va toujours encore recevoir la support financière, ça, c'est une chose. Et l'autre chose, si chez nous, on a la force ou dirais, la santé pour continuer. Alors, ça, on ne peut pas influencer.
Et normalement, les réfugiés qui sont là pour combien de temps ? C'est approximatif, vous n'avez aucune idée.
C'est personne qui a une idée, même pas les réfugiés. Maintenant, ils ont été à Idoménie pour 2-3 mois. Ils ont été déportés dans ces camps militaires et là, ils sont en train d'attendre. Ils ont eu une pré-registration, mais personne ne peut leur dire quand ils vont avoir leur processus. Maintenant, on parle de 2017, mais c'est pas clair qu'est-ce qui va se passer. Même les procédures sont pas claires. Alors ça, c'est la plus pire pour les gens, la plus grande pression psychologique sur eux, c'est qu'ils savent pas comment ça va continuer.
Quels sont vos liens avec ACT, Action Concrète de Terrain, une nouvelle fondation lausannoise créée par Karine Perroux, une initiative aussi privée ?
Alors Karine, elle est venue pour nous supporter en manière de aussi communiquer tous la situation des gens en fuite et de projet de Swiss Cross à la Romandie. Chez nous, on communique en langue allemande et anglais, même en grec et en arabique, mais pas encore de la français. Et comme ça, je suis très heureux qu'elle essaie d'expliquer aux gens à la Romandie ce qu'est la situation des gens en fuite à la Grèce en spécial.
Est-ce que vous avez le sentiment que les médias n'expliquent pas réellement ce qui se passe sur le terrain ?
Alors moi, je pense que chaque média va savoir combien de nouveautés son propre audience peut tenir. La situation dure maintenant pour une année. Si vous le rapportez tous les jours, les gens ils vont plus prendre notice. C'est très difficile. Hein. Mais ce que moi je vois, si on ne porte pas le sujet aux médias, ils ne vont pas le rapporter. C'est pour ça que je pense que tout le monde qui est en train de travailler à la CREC essaie aussi de parler de ça, de parler des gens, de les donner la voix, de présenter les situations pour essayer que les gens comprennent la situation de ces familles.
Mais est-ce que vous pensez que ce sera important que les gens, de manière générale, que ce soit en Suisse ou dans d'autres pays européens, se mobilisent plus au plan individuel ?
Et absolument. Maintenant, ce sont ces 3 humains qui sont plus respectés à la Grèce. Et moi, je sens déjà qu'ils sont plus respectés aussi dans des autres pays. Et ça va arriver très, très vite aussi chez nous. Et ce sont les propres 3 que nous sommes en train de défendre. Ça, ce n'est pas un engagement social. Ça, c'est un engagement de la liberté pour moi, de garder ces 3 pour nous-mêmes aussi. Ce que je vois maintenant à la Grèce, il y a si beaucoup de réfugiés qui sont passés que presque tout le monde a eu un contact. Et tout le monde qui a eu un contact n'a pas un problème avec les gens en fuite. Et pour moi, ça c'est le clé. Si vous rencontrez les gens, si vous vous mettez dans leur place, ça c'est pas la même chose. Vous allez penser différent que vous avez pensé en avant. Et ça a toujours marché, même avec des gens qui ont été critiques ou qui ont été un petit peu timides. Une fois qu'ils rencontrent les gens, ça change.
Ça permet de sensibiliser. Et pensez-vous que la Suisse pourrait ou devrait accueillir plus de réfugiés?
Oui, je pense que oui, parce qu'on est dans une situation très confortable aussi dans l'Europe, mais... si on prend les nombres, la Suisse a pris assez beaucoup des réfugiés, même comparé avec l'Allemagne. En principe, ça c'est pas une crise de réfugiés, mais une crise logistique, parce que si toute l'Europe voudrait collaborer, ça c'est pas un problème. Moi je dirais, si ce sont des vaches, on les a sorties déjà par couleur, par race, par destination, et tout s'est passé, hein. Alors ça c'est vraiment un problème de volonté et pas de capacité.
Michael Reber, créateur de Swiss Cross Help, au micro de Daniel. Un sujet à retrouver sur notre site www.django.fm.